Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. C'est le dernier numéro de la saison avant la pause estivale. Et dans ce numéro, nous irons à Saint-Pétersbourg pour parler du deuxième sommet entre la Russie et l'Afrique. Nous faisons le focus sur les relations économiques entre Moscou et les pays du continent. La Russie peut-elle économiquement être utile à l'Afrique? Nous entendrons la réponse de l'économiste Alkitenge Lubanda. Il est notre invité. Dans le Zoom Express, nous verrons comment les réformes des filières du coton et de l'anacarde ont permis aux producteurs ivoiriens d'augmenter leur rendement. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, nous en parle dans un instant. Et puis, notre destination éco nous mène en Éthiopie. Comment cette puissance démographique de plus de 100 millions d'habitants parvient-elle à se relancer depuis la fin de la guerre au Tigré? Vous entendrez l'analyse de Mustapha Elbouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, prenons la direction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, mais c'est aussi un pays agricole qui dispose d'un potentiel immense dans plusieurs autres filières. C'est le cas de celle du coton et de l'anacarde. Elles ont bénéficié d'importantes réformes ces dernières années. Et ces réformes commencent à porter leurs fruits selon les producteurs. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, nous en fait le point.
De 350 000 tonnes en 2010 à plus de 1 040 000 tonnes produites en 2021, l'anacarde est devenue le deuxième produit agricole d'exportation de la Côte d'Ivoire. Au cours de la campagne 2017, ce sont plus de 508 milliards de francs CFA de revenus qui ont été redistribués aux producteurs. Pour le coton, la production est passée de 310 114 tonnes pendant la campagne 2015-2016 à 539 623 tonnes en 2021-2022. Cette performance qui a été possible grâce aux réformes instaurées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a amélioré les conditions de vie de la majorité des acteurs de ces filières. Ces derniers lui ont donc exprimé toute leur reconnaissance à travers une importante rencontre tenue à Ferke dans le nord ivoirien. Pessero.
Dans l'application de cette politique de développement, le gouvernement Patrick Achille travaille à créer un écosystème pertinent et performant en termes d'infrastructures et de réformes pour fluidifier et favoriser l'installation des industriels du secteur avec un objectif de plus de 50% de transformation de nos noix.
Plus de 70 000 producteurs issus de plusieurs régions du pays ainsi que les organisations interprofessionnelles agricoles étaient mobilisés pour cette importante rencontre de portée économique. Le moment a permis au directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde de revenir sur les actions menées par le président ivoirien en faveur des acteurs de la chaîne des valeurs du secteur du coton et de l'anacarde. Docteur Adama Koulibaly.
Arrivé au pouvoir en 2011, dans des conditions encore fraîches dans nos mémoires, le président de la République a très rapidement engagé la réforme des filières coton et anacarde. Ces filières ont été stabilisées dans la loi 2013-656 du 13 septembre 2013. L'objectif visait en un la mise en place et le suivi d'un cadre réglementaire et la création d'un environnement qui permet une bonne gouvernance des deux filières afin de garantir une meilleure rémunération des acteurs.
Présent à cette rencontre du Ferke, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural a salué cette action des producteurs. Kobedan Kwasi Adjoumani.
J'ai été fier quand j'ai vu votre porte-parole dire que les prix que nous avons connus cette année ne sont pas le fait du gouvernement. Merci donc d'avoir compris cela et de vous être engagé à faire encore de la production de coton.
Le gouvernement ivoirien entend transformer 50% de la production nationale à l'horizon 2030 et améliorer la qualité de manière significative afin d'avoir des produits plus compétitifs sur le marché international. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Medi 1.
Coémergence, l'invité.
Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de la Russie, a accueilli jeudi et vendredi dernier le deuxième sommet Russie-Afrique. Bien évidemment, l'accord céréalier était au menu des discussions, mais aussi les moyens de renforcer les relations entre Moscou et ses partenaires du continent, surtout sur le plan économique. Justement, en parlant d'économie, la Russie peut-elle économiquement être utile à l'Afrique? Pour répondre à cette question, nous recevons l'économiste Elkitenge Lubanda. Bonjour à vous, Elkitenge Lubanda, et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir de vous parler.
Alors, la question est simple. Est-ce que la Russie a quelque chose à apporter économiquement à l'Afrique?
D'abord, il est une erreur majeure de considérer que la Russie peut agir en tant que force unique. La Russie agit dans un cadre beaucoup plus global qui est celui du BRICS. Ça veut dire dans son alliance avec le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Inde. C'est de cette manière que la Russie choisit d'agir, même lorsqu'elle se présente toute seule. Donc la Russie est dans un bloc qui désire créer une nouvelle tendance international pour créer une nouvelle géopolitique. Et c'est dans cette géopolitique qu'une géoéconomie va venir. Et bien entendu, la Russie a des armes pour jouer. Vous savez, la question des produits pétroliers, mais également et surtout la question céréalienne, et dont on pense que ça ne touche que l'Afrique. Non, ça touche l'Afrique et l'Europe. Et aujourd'hui, tout le monde sait très bien que l'économie mondiale est complètement perturbée. La Russie se trouve être parmi les clés de la solution. Une des choses que la Russie ne rate pas de faire, c'est d'arranger les questions économiques, mais directement avec les questions militaires. Parce que la Russie est très consciente que la faiblesse africaine sur certaines choses est essentiellement militaire. Et ils viennent donc avec les deux armes.
Mmh. Alors, cela dit, quand on regarde le niveau des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique, hein, ces échanges ne dépassent pas, le volume de ces échanges ne dépasse pas 18 milliards de dollars. Alors, quand on compare avec la Chine, on est presque à plus de 280 milliards. Quand on voit avec l'Union européenne, on dépasse les 250 milliards. Alors, finalement, la Russie semble être une sorte de nain économique en termes de relations avec l'Afrique.
Vous devrez faire deux fois plus attention. Vous savez, il y a un certain nombre de bénéficiaires des produits économiques russes qui ont commencé à boycotter les produits russes, en l'occurrence toute la partie Europe occidentale. Et donc, il y a une certaine redistribution de ces produits. Un des premiers consommateurs se trouve être la Chine, mais le prochain, c'est l'Afrique. En fait, on va avoir une redistribution des échanges commerciaux dans le monde et la Russie va certainement, parce que finalement, la quantité de produits et des biens et services sur la planète restant égale par ailleurs, si on change de source d'approvisionnement, il va falloir que ce qui est disponible aille là où il y a un creux. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous vous êtes rendu compte que la Chine a commencé à acheter des produits russes et à les revendre. C'est une espèce de blanchiment économique.
En tout cas, c'est une tactique assez intéressante. Alors, parlons de l'actualité économique entre la Russie et les pays du continent et qui a été évoquée lors de ce sommet à Saint-Pétersbourg, c'est l'histoire des céréales. À ce niveau, on a l'impression que les pays africains n'ont pas retenu la leçon par rapport aux impacts premiers de cette guerre qui avait conduit à un arrêt donc, de ces exportations de céréales vers le continent.
Non, la première erreur que le continent a commise, c'est de n'avoir pas tiré les leçons de Covid-19, parce que Covid-19 a été beaucoup plus radical que la guerre russo-ukrainienne. On a vu venir la guerre russo-ukrainienne, mais personne n'a vu venir le Covid. Mais après le Covid, le continent n'a pas tiré des leçons, le continent n'a pas engendré sa transformation d'économie locale, je parle de local sur le plan continental, pour être en mesure de se donner un certain nombre de solutions dont nous avons le potentiel. Bien entendu, la Russie profite de cette situation parce que si le continent avait développé des capacités, la guerre russo-ukrainienne ne nous aurait pas frappé. sur des questions comme les céréales, et en l'occurrence le blé, dont on pense que le climat du continent n'est pas favorable, la réponse est que c'est faux. Aujourd'hui, on trouve des pays comme l'Éthiopie, comme le Zimbabwe et d'autres pays qui produisent du blé sur le continent. Donc, nous pouvons produire notre blé sur le continent. Il faudra juste l'expertise et le travail. Mmh. Et je pense simplement qu'en dehors du céréal ou des céréales, il y a lieu d'échanger bien plus de choses, dont des technologies entre la Russie et le continent. La Russie est un des pays technologiquement très avancés.
Justement, quand vous parlez de ces secteurs potentiels, au-delà de ce qu'on a cité depuis à savoir les hydrocarbures, les céréales et autres, et les armes, bien évidemment, quels sont les autres secteurs potentiels sur lesquels ces relations peuvent se développer?
Il faut retenir, et je l'ai dit tout à l'heure, que la Russie est un pays très avancé en matière de technologie, que ce soit les technologies de l'information, la cybercriminalité russe est reconnue comme étant une des pointes, mais également toutes les grandes industries de l'armement, du transport, mais également toutes les technologies de construction. La Russie est une puissance, qu'on le veuille pas. Et la Russie a de l'espace pour être en mesure de se développer sur le continent, y compris dans le secteur minier.
Dans le secteur minier. Alors, cela dit, pensez-vous que dans ce contexte de sanctions occidentales, dans ce contexte de limitation des capacités de commerce avec la Russie, les pays africains peuvent en tirer bénéfice de ces largesses-là?
Vous savez, les sanctions économiques européennes, tout le monde en rit maintenant parce qu'on s'est rendu compte que ça ne provoque des effets négatifs que sur le continent européen. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, avec cette nouvelle tendance de la coalition BRICS, le nouveau dilemme commence à porter de plus en plus de sympathie. Il y a beaucoup de pays qui se déclarent de plus en plus s'approcher du BRICS. En fait, nous sommes à une période où les gens se révoltent contre l'injustice permanente qu'a été le dollar en tant que monnaie monolithique. Et je crois que cela donne des couloirs d'accélération à la Russie pour proposer, dans un concert avec les autres pays, des alternatives au continent. Je crois simplement que la géopolitique mondiale est en train de changer, elle va changer très rapidement.
Alors, quels sont selon vous aujourd'hui les pays africains qui sont les plus disposés, qui ont plus de... disons, d'atouts et de prédispositions pour mieux commercer avec la Russie?
À mon avis, l'un des pays qu'il faut regarder correctement, c'est l'Afrique du Sud, qui est d'ailleurs partenaire dans le cadre du BRICS, mais également le Nigeria, qui est la première économie du continent. À côté de ça, il faut regarder les pays qui sont déçus du comportement occidental, dont l'Algérie. Et si nous prenons l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, on a traversé tout le continent.
En tout cas, c'est intéressant. Alors, cela dit, vous parlez des BRICS, justement. Aujourd'hui, comment les pays africains peuvent davantage tirer profit de ces BRICS-là?
La première des choses qu'il ne faut pas commettre comme erreur, c'est de faire exactement la même chose comme avec l'Occident à l'époque, où l'Afrique s'est conduite comme un enfant, comme un irresponsable, à qui on venait proposer des projets de développement. Bien sûr, quand quelqu'un te met dans son plan, c'est pas pour toi, c'est pour lui qu'il te met dans son plan. Il est important que l'Afrique, de manière globale, et les pays africains, de manière séparée, se dotent de leur propre plan de développement et leurs besoins. Et ceci dit, ils devraient établir des relations adultes avec les BRICS pour que la relation financière ne dépende pas de la relation géopolitique. Et parce qu'il ne faudrait justement pas qu'on remplace une monnaie de domination par une autre monnaie de domination, une autre économie et une autre finance de domination par une nouvelle finance de domination. Il est donc important que le réveil au niveau de la conscience et de la responsabilité des pays africains leur donne un statut d'adulte, des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui accèdent à des moyens économiques et financiers pour réaliser leur agenda. Et aujourd'hui, l'agenda, c'est le développement du capital humain, c'est la compétitivité.
Intéressant à entendre. Merci à vous, Elkitenge Lubanda. Je rappelle que vous êtes donc économiste spécialiste de l'Afrique. Vous nous parliez à l'occasion donc de ce deuxième sommet Russie-Afrique qui vient de se tenir à Saint-Pétersbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Destination Éco.
Notre destination économique en Éthiopie, comment cette puissance démographique de plus de 100 millions d'habitants parvient-elle à se relancer depuis la fin de la guerre au Tigré? Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique, nous fait le point.
Avec une population de près de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie est la seconde nation la plus peuplée d'Afrique, après le Nigeria. Sa capitale, qui est très connue maintenant au niveau international, pour ne plus la nommer Addis Abeba, cette capitale elle a une particularité. En fait, elle est située à 2400 mètres d'altitude. C'est la première capitale la plus élevée d'Afrique et au niveau mondial, c'est la quatrième. Au niveau économique, l'Éthiopie se distingue vraiment par un essor qui est, je dirais, continu depuis pratiquement une vingtaine d'années. En effet, depuis les années 2000, la croissance de l'Éthiopie, et plus précisément la croissance du PIB de l'Éthiopie, est l'une des plus importantes au monde. Elle avoisine les 10% par an, donc ce qui est assez remarquable. Cette croissance, elle a vraiment permis une sortie, je dirais, de l'extrême pauvreté que connaissait le pays pour une grande partie ou une bonne partie de la population. L'Éthiopie possède une économie qui est essentiellement agricole. L'agriculture représente plus de la moitié de son PIB. D'ailleurs, là, il y a vraiment des opportunités très importantes à prendre pour les entreprises marocaines dans ce domaine. D'ailleurs, pour ce qui est des relations entre l'Éthiopie et le Royaume du Maroc, on peut dire que les deux pays sont devenus, grâce à une volonté et également à des efforts qui sont mutuels, ces deux pays sont devenus vraiment deux partenaires stratégiques, non seulement au niveau continental, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, mais également au niveau international. D'ailleurs, il y a encore un énorme potentiel inexploité du commerce bilatéral, ainsi que des investissements et de la coopération économique entre les deux pays que sont le Royaume du Maroc et l'Éthiopie.
Le grand projet de production d'engrais avec l'OCP constitue aujourd'hui une base solide pour dynamiser les relations économiques entre les deux pays. Tout ceci grâce à l'impulsion donnée ces dernières années par le roi Mohamed VI. Je vous propose d'écouter à nouveau Moustapha El Bouri qui nous parle du potentiel de coopération économique entre le Maroc et l'Éthiopie.
Suite à une visite très importante de Sa Majesté Mohamed VI en 2016 à Addis Abeba, plusieurs grands projets en fait d'envergure ont été lancés à ce moment-là dans différents domaines. Le plus important d'entre eux concerne le groupe marocain OCP. D'ailleurs, ce projet, vraiment, il a donné naissance à une très belle expérience marocaine d'investissement. Cet investissement a consisté par la construction d'une usine, d'une très très grande usine de fertilisants à Dire Dawa, en Éthiopie. C'est un projet qui a coûté près de 2,5 milliards de dollars pour la première phase et atteindra, au terme de sa deuxième phase, près de 4 milliards ou 4,5 milliards de dollars. Donc c'est vraiment un investissement de très grande envergure. D'ailleurs, cet investissement, je pense très sincèrement qu'il contribuera de manière considérable à la transformation agricole de l'Éthiopie. J'ajouterai également que cet événement, c'est vraiment en fait une véritable illustration, je dirais, de cette coopération qui est à la fois florissante et continue entre le Royaume du Maroc et l'Éthiopie. Vraiment, le Maroc et l'Éthiopie sont résolument décidés à aller davantage de l'avant, ceci en s'engageant à une meilleure coopération dans différents secteurs d'activité. Ça aura pour conséquence, je pense, de hisser de façon assez élevée les relations économiques au niveau d'un partenariat qui sera stratégique. Je terminerai en disant que vraiment l'intensification des relations économiques entre le Royaume du Maroc et l'Éthiopie est en ligne de mire.
Merci à vous, Moustapha El Bouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations sur le continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Comme je le disais à l'entame de ce rendez-vous, il s'agissait donc du dernier numéro de cette saison pour Coémergence. Merci à vous de nous avoir suivis au cours de cette saison. Merci pour vos remarques et suggestions et contributions, bien évidemment. Merci également à l'ensemble de nos équipes techniques et spécialement à notre équipe de la production. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme et au plaisir de vous retrouver après la pause estivale. Bonne suite de programme sur Medium.